Ce que nous organisons avec les écoles doctorales, cognition, littérature. Et le directeur ne peut pas être là ce soir, mais je passe un petit appel. Il y a quelqu'un qui fera signer la liste d'émargement, donc une doctorante qui est là, voilà, qui lève le doigt. Non, mais je reviens à notre invité. On vous entend beaucoup, on entend beaucoup parler de vous, par les gens qui sont venus ici, nos invités aussi qui vous connaissent, qui sont très contents qu'il y ait quelqu'un comme vous à l'Université de Poitiers. Hein, on est très contents que vous soyez là pour apporter tout ce que vous nous apportez. Et donc, je vais vous présenter le petit mot que vous m'avez donné. Je vais lire votre présentation. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université de Poitiers, spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée, éthique médicale et biomédicale, questions animales, écologie. Donc, vous avez enseigné 16 ans dans le secondaire. Et vous êtes agrégé avant d'enseigner l'éthique médicale en anglais à l'Université de Boston et d'être recruté comme maître de conf à Poitiers en 2008. Vous êtes titulaire d'une habilitation à diriger les recherches et vous êtes régulièrement invité en France et à l'étranger pour des cours en éthique et des conférences. Donc vous serez bientôt invité à l'Université de Kyoto en janvier 2013. Donc vous quittez Poitiers pendant un certain temps alors,
hein? Donc 10 jours.
10 jours, d'accord. Et vous avez été auditionné plusieurs fois par des parlementaires, des sénateurs, en effet, sur des questions liées à la fin de vie, le suicide assisté, sur le rapport entre sciences et société. Donc tous les sujets qui nous intéressent ici à l'Espace Mendès France. Et vous avez participé à l'université d'été du PS sur la fin de vie et à l'université d'été des Verts sur la question animale l'été dernier. Donc voilà, vous avez publié beaucoup d'ouvrages. Vous êtes jeune, vous publiez beaucoup. Vous avez un ouvrage à paraître bientôt, d'ailleurs, aux éditions du CERF. Tu ne tueras point, réflexion sur l'actualité de l'interdit du meurtre. Aux éditions du CERF, vous avez publié Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, pardon, les hommes, les animaux, la nature. Vous avez le Grand Prix Mauron de l'Académie française 2012, Prix des rencontres philosophiques du Riage. Vous avez des livres qui sont voire traduits en espagnol et vous avez aussi écrit un ouvrage philosophique, en effet, sur la critique de la religion chez Hobbes, etc., de Léo Strauss, traduit de l'allemand et présenté par Corinne Pelluchon. Donc ce soir, vous allez parler d'un thème qu'on aime beaucoup à l'Espace Mendès France. On a organisé déjà des journées d'études, on en parlait tout à l'heure avec notre ami Georges Chapoutier sur le rapport de l'homme à l'animal. On a organisé aussi des journées d'études sur l'éthique, la bioéthique. Donc, quand il s'est agi de chercher des conférenciers pour les étudiants des écoles doctorales, pensez à Corinne Pelluchon qui n'était pas encore venue chez nous. Donc, il n'est jamais trop tard et ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là. Donc, vous allez nous parler des hommes, les hommes, les animaux, la nature, quel sujet, quelle démocratie. Mais avant de commencer, je ne peux pas m'empêcher, vous en avez parlé tout à l'heure, de lire l'exergue de votre ouvrage que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, parce que c'est un petit texte de Romain Gary que vous connaissez sans doute tous. Et vous savez que Romain Gary avait aussi une grande attention envers non seulement envers les animaux et les rapports humains, bien sûr. Donc il faut absolument que les hommes parviennent à préserver autre chose que ce qui leur sert à faire des semelles ou des machines à coudre, qu'ils laissent de la marge, une réserve où il leur serait possible de se réfugier de temps en temps. C'est alors seulement qu'on pourra commencer à parler d'une civilisation. Une civilisation uniquement utilitaire ira toujours jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au camp de travail forcé. Il nous faut laisser de la marge. Les éléphants font partie de ce combat-là. Les hommes meurent pour conserver une certaine beauté de la vie, une certaine beauté naturelle. Donc c'est extrait des Racines du ciel. Alors si vous ne l'avez pas lu, lisez-le et offrez-le à tout ce que vous aimez, parce que c'est vraiment un livre extraordinaire. Donc on vous écoute, Corinne. Merci beaucoup pour
merci.
Tout.
Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et pour l'invitation. Alors jusqu'au dernier moment, je me suis demandé si je présentais, si j'étais fidèle à ce qu'on m'avait demandé, les hommes, les animaux, la nature, ou si je présentais un travail en cours. Et puis bon, je suis fidèle à ce qu'on m'a demandé. Donc je vais exposer, peut-être de manière un peu large, mais un parcours. Donc les hommes, les animaux, la nature, quel sujet, quelle démocratie ? Alors, mon domaine principal de recherche est la philosophie politique, même si les champs étudiés relèvent de ce qu'on appelle l'éthique appliquée. Il s'agit des dilemmes liés aux nouvelles pratiques médicales et aux biotechnologies, et je m'interroge aussi sur les usages du vivant, ce que nos usages, en particulier des animaux, révèlent de nous. et la prise en considération des défis que la bioéthique et l'écologie posent à l'homme et à la démocratie, et les transformations qu'ont fait subir à ma pensée les connaissances acquises au contact de praticiens, des différents acteurs intervenant dans ces domaines, eh bien tout cela aboutit à un effort pour compléter le libéralisme politique, j'en parlerai dans un instant, et à une tentative pour enrichir la philosophie du sujet, qui est donc ça c'est les deux points principaux des derniers livres qui sont déjà parus. Donc le lien entre le volet politique de la réflexion et le volet ontologique est au cœur de ce travail. Le premier volet, le volet politique, est lié essentiellement à une réflexion sur les conditions de la délibération. En fait, peut-on penser le dépassement du primat du juste sur le bien, qui n'équivaudrait pas à la fondation du politique sur le religieux, mais permettrait de légiférer sur des problèmes qui obligent à dépasser le vocabulaire des droits de l'homme et la question de l'égalité, la référence exclusive aux libertés. En effet, les questions qui m'intéressent, l'écologie, la question animale, exigent un dépassement du libéralisme politique que je vais résumer brièvement et qui est défini par John Stuart Mill dans De la liberté au milieu du 19e siècle, quand il dit qu'en fait, on doit faire référence à la force coercitive des lois de l'État que lorsque quelqu'un crée un dommage à autrui, pas une offense, mais un dommage. Donc cette séparation entre la morale et le droit, elle fait de borner le politique à l'accord extérieur des libertés ou au consentement, est évidemment précieux pour éviter la contrebande contaminante de jugements moralisateurs en politique qui a conduit des années à criminaliser l'homosexualité et tout un tas de choses. Mais quand on s'interroge, comme moi, à nos usages des écosystèmes, à notre manière d'habiter la Terre, à nos usages des vivants, se pose la question des dommages que l'on crée aux écosystèmes, se pose la question de notre responsabilité envers les générations futures, donc une responsabilité qui n'est pas liée à la réciprocité des droits et des devoirs, puisque nous avons une responsabilité envers les générations futures, dont nous affectons les conditions de vie, mais eux, ils ne sont pas encore nés, donc ils n'affectent pas nos conditions de vie. Et enfin, par rapport aux animaux, donc toutes ces questions supposent de dépasser ce qu'on appelle le libéralisme politique. Donc, et peut-être de repenser un contrat social qui ne soit pas seulement structuré par l'avantage mutuel et par la réciprocité entre les droits et les devoirs. Alors, l'autre volet de la réflexion porte sur la conception du sujet, de la subjectivité, qui est au fondement du droit. C'est-à-dire que il y a, si, comme on le verra, on pense la responsabilité peut-être hyperbolique qui est la nôtre, et surtout si on la pense de façon non psychologique ou moralisatrice, mais qu'on l'installe au cœur du sujet, eh bien cela change le sens de la liberté, et cela change aussi, en tout cas, le climat de la philosophie, qui n'est plus une philosophie liée au rapport à soi, une philosophie de la liberté, mais qui, approfondissant la philosophie de la corporéité, dont j'en parlerai avec l'éthique de la vulnérabilité, et peut-être aussi approfondissant la réflexion sur ce dont nous vivons, les nourritures, sur ce dont nous vivons, de bonnes soupes, de cinéma, d'air, de choses hybrides, comme dit Lévinas, cela veut dire qu'il y a un sens de l'existence qui s'ensuit, qui n'est peut-être pas celui qui a été pointé par les philosophies de l'existence, quelle que soit leur grandeur. Donc là, il y a eu quelque chose de tout à fait intéressant, qui est suscité, inspiré par les champs tout à fait aiguë, difficile, qui m'intéresse essentiellement l'écologie aujourd'hui, la question animale, qui est mon dada, on peut le dire. Alors ces deux volets, politique et ontologique, sont présents dans les deux ouvrages qui se suivent et dont je parlerai, L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie, en 2009, où d'ailleurs il y a un chapitre qui s'appelle Éthique de la vulnérabilité, qui m'avait été inspiré par un travail mené auprès de patients et d'aidants accompagnant des personnes malades d'affections dégénératives du système nerveux, donc malades d'Alzheimer et tout ça, mais ça dépasse quand même cela. Il était déjà question des animaux dans ce livre aussi. Et l'autre livre qui suit, qui s'empare de la question écologique, qui aboutit à une... qui déroge peut-être profondément encore plus l'éthique comme la politique. Donc, ces deux volets sont présents dans ces deux ouvrages, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité et L'autonomie brisée, mais l'articulation entre le volet ontologique et le volet politique est un peu différente d'un volume à l'autre, ce qui ferait presque croire qu'on progresse, enfin, j'espère. Et donc, je parlerai peut-être de cela, et je vais commencer, en fait, je vais vous présenter quelque chose en trois points, trois parties. partie. D'abord, je vais vous présenter quelques-unes des thèses de l'autonomie brisée, donc sur la bioéthique, assez rapidement, mais qui justement liées à ces deux volets dont je parlais. Puis, dans une deuxième partie, je m'attarderai davantage aux thèses d'éléments pour une éthique de la vulnérabilité, en partie donc quelles modifications de l'éthique, quelles catégories peuvent permettre de penser l'entrée de l'écologie dans nos vies et dans l'éthique. Et puis, dans la troisième partie, il s'agira des transformations de la démocratie qui peuvent s'en suivre d'une prise au sérieux de l'écologie, ou en tout cas comment éviter la secondarisation constante de l'écologie et comment cela appelle non pas à une critique ou à un rejet de la démocratie, mais peut-être à une réponse plus démocratique, peut-être à une transformation de la démocratie et en tout cas des modifications des instances délibératives, le fil directeur de tout cela étant que toutes ces questions suscitent la créativité de la philosophie. Et l'invite justement à faire preuve d'audace. Donc, enfin, me semble-t-il. Donc, première partie, l'autonomie brisée, donc centrée sur les questions d'éthique médicale et biomédicale qui ont été un laboratoire pour la pensée. C'est-à-dire que vraiment, la bioéthique donc, a été un laboratoire pour la pensée parce que l'accompagnement des malades souffrant d'affections dégénératives du système nerveux, hein, donc, qui ont perdu le sens fonctionnel des objets, l'identité narrative, la mémoire, je pense aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer à la fin, eh bien, la possibilité aussi de réanimation de sujets au seuil de la mort qui pose la question des définitions de la mort et du coma et de jusqu'où on réanime et pourquoi, quel est le sens du soin, les techniques de procréation médicale assistée, etc. Eh bien, toutes ces questions fondamentales qui sont aujourd'hui notre temps, hein, notre contemporain, eh bien, ces questions exigent la reconfiguration de catégories classiques de l'éthique, l'autonomie, la dignité. L'identité, hein, je parlais des malades d'Alzheimer, d'habitude pour nous, l'identité c'est lié à la mémoire, hein, pour tenir nos promesses, il faut bien savoir ce qu'on a fait la veille. Eh bien, un malade d'Alzheimer, où est son identité s'il ne sait plus avec qui il s'est marié, enfin, s'il y a en tout cas l'identité narrative n'est peut-être pas l'ipséité, pas seulement. En tout cas, vous voyez que ces questions-là bouleversent les catégories centrales. Alors, je vais... De même, il s'agit de penser le rapport du sujet juridique au moins charnel. Hein. Le droit romain est structuré par les choses et les personnes. Bon, bah, les gamètes, c'est quoi, hein. Déjà, l'embryon, c'est ni une chose ni une personne. Donc, bon, déjà, il y a une créativité juridique qui devrait être suscitée, d'ailleurs, plus qu'elle ne l'est encore. Et, bon. Donc, les principes de l'éthique médicale, ça existe, l'éthique médicale, depuis environ 40 ans. L'éthique médicale, c'est... structurée et née comme discipline à part. Les questions d'éthique médicale existaient bien avant, évidemment, Hippocrate, et puis depuis que les hommes meurent, existent, donc depuis tout le temps. Mais l'éthique médicale s'est constituée comme discipline à part, comme champ, et le mot bioéthique est né en 70, d'ailleurs, sous la plume d'un fan Potter, d'un cardiologue, et qui était un peu fou, d'ailleurs, mais enfin, c'est très bien, qui en même temps parlait d'écologie, donc il n'était pas si fou que ça. Mais enfin, bon, les principes de l'éthique médicale ont été codifiés dans une sorte de mantra par des gens qui sont dans la Georgetown University aux États-Unis. Ils s'appellent Beauchamp, c'est Beauchamp, mais ça se dit Beauchamp et Childless, qui ont fait une sorte de bible qui s'appelle les principes de l'éthique médicale, la justice, l'autonomie, la non-malfaisance et la bienfaisance. Alors c'est évidemment très utile et on peut lire les pratiques ou ce qui... penser les pratiques, ce qui leur manque à la lumière de ces catégories, mais enfin, donc c'est très important, c'est un acquis, mais évidemment, le problème, c'est de savoir ce qu'on met dans la non-malfaisance. Peut-être qu'aujourd'hui, l'acharnement thérapeutique, c'est un signe de malfaisance, et surtout, comment on pense l'autonomie, par exemple, d'une personne dans le coma, puisque aujourd'hui, depuis le respirateur artificiel, donc ça fait simplement quelques décennies, eh bien, on peut continuer à respirer, même à ouvrir les yeux, à faire des mouvements de reptation alors que le cerveau est mort et même que les conditions neurologiques permettant de communiquer sont détruites quand le néocortex est atteint et qu'on est aussi relationnel, ça fait beaucoup de monde. Des végétatifs persistants, il y en a à peu près 5000 en France, des possibles relationnels, il y en a beaucoup plus. Et ils ne sont pas dépendants de respirateurs artificiels, ni de trachéotomie, ni de... Donc c'est évidemment la question des arrêts des traitements est importante. Alors moi, justement, au lieu de répéter ce qui existe déjà, j'ai essayé de tenir compte de cet acquis tout en essayant justement de préciser le contenu de ces principes, en essayant de dépasser des oppositions trop tranchées. Et je me suis focalisée sur une des notions qui est essentielle un peu partout, c'est l'autonomie. Et justement, il m'a semblé que l'autonomie, si on l'a pensée, pour la rendre utilisable dans le contexte clinique, pour la rendre utilisable dans le contexte clinique où les gens sont malades, où ils ont peur, où ils ont mal, où ils ont des déficits cognitifs, où là où il y a des personnes démentes, eh bien, on ne peut plus penser l'autonomie comme autodétermination, comme capacité à choisir ce qu'on veut, etc. On ne peut plus la penser de manière homogène, comme si elle était d'emblée là. Il faut la reconfigurer, il faut surtout dépasser le sens juridique de cette notion qui est la compétence, et qu'on mesure d'ailleurs. Et alors moi, il m'est venu l'idée de la penser, enfin, j'ai été inspirée par une jeune, qui est plus si jeune que ça maintenant, enfin bon, une philosophe américaine qui est tout à fait intéressante, qui avait travaillé sur les malades d'Alzheimer, qui pensait l'autonomie comme double capacité, c'est-à-dire la capacité premièrement à avoir des désirs et des valeurs, et cette capacité-là n'est pas affectée par les déficits, handicaps et tout ça. Les personnes peuvent avoir des désirs même s'ils ont du mal à les hiérarchiser, comme dans le cas des personnes âgées, démentes, qui aiment bien voir leurs enfants mais n'aiment pas se laver, c'est souvent le cas, ils n'aiment pas tellement qu'on les astique, je cite une des personnes que j'avais visitées. Mais donc, si vous voulez, les handicaps n'affectent pas ce premier sens de l'autonomie, mais les handicaps, les déficits cognitifs et tout le reste affectent le deuxième sens de l'autonomie, la deuxième capacité que désigne cette notion, à savoir la capacité à traduire dans les actes ses désirs et ses valeurs. Ce qui veut dire qu'au lieu de se focaliser, comme le font les bioéthiciens, sur l'opposition binaire entre d'un côté une autonomie introuvable et de l'autre côté une bienfaisance qui fait parler du paternalisme, eh bien, moi, j'ai mis l'accent sur, en reconfigurant l'autonomie, sur l'idée que les aidants ou les soignants pouvaient déchiffrer la volonté de la personne, peut-être en essayant d'établir un dialogue, même quand elle ne parle pas, un dialogue infraverbal, en tout cas d'essayer de déchiffrer, de la comprendre, puis ensuite de trouver des activités susceptibles de lui correspondre. C'est-à-dire, c'est le sens du mot accompagner, aller la chercher là où elle est, et non là où on voudrait qu'elle fût. Mais aussi, c'est l'idée qu'au lieu de se focaliser sur des principes figés et dans une opposition binaire, eh bien, on déplace le curseur du paternalisme vers la recherche des qualités très diverses, herméneutiques, de communication, de tact, d'écoute, d'attention, qui sont nécessaires afin de prendre soin d'une personne en situation de vulnérabilité. Donc, ce travail, cela encourageait un travail qui se plaçait au niveau des deux premiers niveaux, sur le plan des deux premiers niveaux du jugement médical. Vous savez que Paul Ricoeur, dans un texte court et très brillant, disait qu'il y avait trois niveaux du jugement médical, le niveau prudentiel, le niveau du médecin et de la personne malade, ou maintenant on dirait l'équipe de soins et de la personne malade, donc il y a un niveau individuel avec une dimension narrative de la maladie et pas seulement clinique, avec une relation personnelle, puis le niveau déontologique des normes où sont codifiées un certain nombre de pratiques, de bonnes pratiques, et où évidemment on a aussi non seulement les codes de déontologie mais les textes de loi, les droits des malades qui sont opposables, etc. Et puis, donc ça, ce travail d'articulation des deux premiers niveaux du jugement médical n'est lui-même valable que s'il est soutenu par la connaissance des techniques. Des techniques médicales qui souvent changent les données d'un problème. Et moi, je m'étais beaucoup intéressée, évidemment, c'est pas très gai, mais à la réanimation anesthésie, où les outils d'imagerie cérébrale, et de manière générale, tout ce qu'on fait aujourd'hui sur le cerveau, permettent de déterminer, au bout de 3 semaines, le pronostic de récupération par un malade dans le coma de ses fonctions neurologiques. Et l'idée, c'était justement de réfléchir à... J'avais pris ça, en fait, au pédiatre, puisque vous savez qu'on réanime, on réanime, on réanime beaucoup, et puis après, on se demande pourquoi on a réanimé, c'est la pédiatrie. On réanime au départ au bénéfice du doute, puis si on se rend compte que ce n'était pas la peine, c'est au maléfice du doute, on se rend compte que, justement, les moyens étaient disproportionnés. Eh bien, j'ai appliqué cela à la question du malade dans le coma, qui, par exemple, à la suite d'un traumatisme crânien, on le réanime au sens où bien on va lui donner toutes ses chances Et on ne sait pas. On lui donne toutes ses chances. Donc, au bénéfice du doute, on fait tout pour lui. Puis, au bout de trois semaines, parce qu'il faut quand même que... On peut pas, l'imagerie cérébrale, c'est assez perturbant pour quelqu'un qui a un traumatisme crânien. Donc, il faut attendre. Mais au bout de 3 semaines, eh bien, cet outil d'imagerie extrêmement précise permet de voir si les traitements administrés sont encore proportionnés ou si au contraire, s'ils sont bénéfices du malade ou si au contraire, ils lui sont maléfiques, si au contraire, ils relèvent de l'acharnement thérapeutique. Mais on voit bien que ça, c'est un raisonnement a posteriori où justement, la clé de la décision d'arrêt de limitation des traitements est non pas un jugement sur la valeur de la vie, mais l'idée de la proportionnalité des traitements à l'état du cerveau et à l'état du malade et à l'évolution. Donc, c'est tout à fait, donc ça, les techniques ont révolutionné un petit peu l'approche. Voilà. Cependant, l'essentiel de mon travail portait surtout sur l'articulation entre les deux premiers niveaux, donc le niveau prudentiel, colloque singulier, comme on disait il y a quelques décennies, c'est un peu paternaliste, mais bon, deuxième niveau déontologique, et le troisième qui est le niveau des téléologiques, c'est-à-dire le niveau des fins et des choix de la société. Donc l'objectif pour moi, qui suis donc obsédée par la philosophie politique, était de déterminer les conditions de la législation sur des questions qui soulèvent des enjeux qui vont bien au-delà de la coexistence pacifique des libertés et même des problèmes pourtant incontournables de redistribution, d'égalité. Exemple, les biotechnologies, même toutes les pratiques qui ont un impact sur le sens des institutions, sur les dispositions qui soutiennent la vie collective. Bon, le clonage, ce n'est pas seulement une question comme ça de liberté ou d'imposer à quelqu'un finalement un génotype qui sera semblable à l'individu de 20 ans dont il est issu, si je puis dire, et qui a un peu son... Non, ce n'est pas seulement ça, c'est peut-être aussi contraire au sens de la parentalité comme ouverture à ce qu'on n'attendait pas, si je puis dire. Donc là, il y a une réflexion, en tout cas. Et moi, mon idée, c'était que pour sortir des jugements moralisateurs en politique, puisqu'en légiférant, il faut bien affronter le fait du pluralisme, comme dit Rawls. Eh bien, l'idée, c'était non pas de dire si une pratique est bonne ou mauvaise en soi, comme si on avait la vérité dans le ciel des idées, mais de réfléchir à justement son impact sur le sens des institutions, sur les différents acteurs impliqués, et aussi mesurer la compatibilité qu'il peut y avoir entre une revendication sociétale et justement ce qui existe déjà. Et pas seulement ce qui existe déjà au sens des lois, mais ce qui aussi rend possible l'exercice de ces lois. Donc les dispositions qui rendent possible... la solidarité, etc. Donc, et sur un certain nombre de questions, y compris sur la question du suicide assisté, cette démarche qui relie un peu de manière immanente le droit et la morale, donnait des résultats assez intéressants, parfois différents de ceux que j'aurais pu imaginer moi-même si je tenais compte de mes goûts et mes couleurs. Mais bon, donc c'était, voilà. En tout cas, l'idée, si vous voulez, c'est qu'il y avait deux écueils en bioéthique. Le premier écueil, c'était la fondation de la politique sur une vision religieuse du monde ou sur une vision du monde qui n'est pas généralisable. Donc, c'est ce que Ruven Ogden appelle l'éthique maximaliste. Et l'autre écueil, c'est ce qu'il appelle l'éthique minimaliste, qui s'en tient au credo de Mill, dont j'ai parlé. On n'interdit que les pratiques qui créent un dommage réel à autrui, mais qui ne tiennent pas en compte ni des hommes à venir, ni des écosystèmes, ni même de l'impact de certaines pratiques sur le sens des institutions. Et juste pour en parler, mais ce n'est pas le propos ici, la question du suicide assisté, c'est évidemment pas seulement une question relative aux droits individuels, bien sûr que c'est important, mais ça implique une structure de soins et il faut contextualiser, il faut pas, donc on ne peut pas légiférer sur cette question difficile et tout à fait importante sans tenir compte aussi des conditions dans lesquelles ça se fait. Donc ce n'est pas seulement une question de mon droit, c'est important, mais ça ne suffit pas. Donc voilà. Et l'idéal même d'un état neutre et minimal qui est postulé comme le cœur d'un certain libéralisme, qui est plutôt un libéralisme libertaire, et qui s'en tient seulement à la protection des libertés négatives ou à la règle du consentement, cet idéal d'un État neutre axiologiquement est lui-même une vision du monde. Pourquoi ? Eh bien, parce que cet état minimal, soi-disant, ou cette éthique soi-disant minimale, eh bien, cautionne une vision de l'homme comme définie essentiellement par la liberté. Et même cautionne une vision de la liberté comme étant la capacité seulement à changer, à faire des choix et à en changer. Et concrètement, on le verra chez Dworkin, eh bien, donc un libéral un peu pur, eh bien, Dworkin dira que justement toutes les pratiques permettant à un individu d'augmenter sa capacité, donc manipulation génétique et autres, sont bonnes en vertu de sa neutralité axiologique. Idem pour Ruvenogen. Et le problème, c'est que d'ailleurs, cette éthique minimale ne permet pas de défendre les valeurs dont pourtant ses partisans se réclament, comme l'égalité, puisque la liberté des uns à utiliser des techniques qui augmenteront leur performance, leur patrimoine génétique ou même leur génotype, si on parle de thérapie génique germinale et pas seulement somatique, eh bien, cette liberté des uns s'opposera à la liberté des autres qui n'auront pas le choix. Ils seront un petit peu comme au Tour de France où celui qui ne se dope pas est toujours dernier. Donc, du coup, bien plus, c'est la justice procédurale, c'est-à-dire la manière de délibérer, l'idée d'un primat du juste sur le bien, qui est quand même grandiose, mais où l'on ne retient que les positions qui se chevauchent, overlapping consensus chez Rawls, en théorie de la justice en 71, et puis au libéralisme politique surtout. Eh bien, cette idée d'une délibération où on met de côté les fondations métaphysiques de ses pensées pour ne garder que les opinions où on se chevauche parce qu'on est en démocratie et on veut se confronter le fait du pluralisme, eh bien, cela aussi, c'est pas suffisant quand on s'interroge en bioéthique sur cette question. Donc, au lieu de s'en tenir au consensus par recoupement, la méthode que j'avais utilisée dans un premier temps, parce que ça a beaucoup évolué, consistait à mesurer la compatibilité des pratiques ou revendications avec le sens des institutions, donc il s'agissait de décrire, et même avec les idéaux ayant tel ou tel sens dans une communauté donnée, donc invitant à une réflexivité un peu proche, pour ceux qui connaissent, de la méthode communautarienne, mais avec des nuances. Donc une telle démarche, si elle intègre l'éthique de la discussion de Habermas, qui permet donc de dégager des normes universalisables qu'on ne trouve pas dans le ciel des idées, mais qui vont permettre de légiférer, eh bien, elle laisse quand même ouverte la question de savoir si la raison publique, donc qui procède d'un consensus par confrontation des convictions des participants, est la seule source des normes guidant les politiques publiques. En effet, on peut penser que les convictions des participants qui discutent dans la délibération reflètent les visions substantielles du bien qui elles-mêmes renvoient aux traditions d'une communauté ou même de communautés multiples. Et d'ailleurs, en ce sens, chez Habermas, il n'y a pas seulement un primat du juste sur le bien, c'est pas un partisan de l'éthique ou de la justice procédurale, mais moi je voulais aller plus loin, ou il me semblait qu'il fallait aller plus loin, et dire qu'il y avait au-delà de ce que la raison publique reconnaît comme valide pour une communauté, notamment quand il s'agit de s'interroger sur la fiscalité, sur tout ce qui concerne la redistribution, où là l'éthique procédurale et surtout l'éthique de Habermas marche bien, mais moi il me semblait, et vous allez voir que les animaux m'ont encore inspiré, eh bien qu'au-delà de ce que la raison publique reconnaît comme valide pour la communauté, il y a des normes qui s'en suivent, du sens des institutions et des pratiques elles-mêmes. Et j'ai utilisé cet argument pour condamner l'élevage industriel, lequel est contraire au sens de l'élevage, puisque ce n'est pas une production maximale de biens, etc., mais aussi au travail de l'éleveur qui en souffre et aux normes éthologiques des bêtes elle-même, j'en parlerai tout à l'heure, mais concrètement, le cochon a besoin d'une vie sociale, a besoin de fouiner, la poule a besoin d'étendre ses ailes. Quand on frustre ses besoins éthologiques, il développe des stéréotypies qui manifestent leur souffrance, mais aussi leur douleur et leur souffrance, leur mal-être, leur détresse, et qui montrent surtout que nous nous octroyons un droit absolu sur ces bêtes, alors que leurs besoins éthologiques limitent notre droit d'en user comme bon nous semble. Nous pouvons certes les exploiter, mais pas dans n'importe quelles conditions. Donc, ça veut dire, mais là, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que ces normes éthologiques, nous pouvons les reconnaître, mais nous n'en sommes pas les auteurs. Donc, la raison publique n'était pas la source complète. Et là, évidemment, en écologie, ça va avoir beaucoup de sens. Donc, dans l'autonomie brisée, cette enquête sur les conditions d'une législation adaptée en bioéthique s'accompagnait d'une interrogation sur le rapport entre individus et communautés qui sous-tend certaines revendications sociétales et même certaines demandes de patients qui tendent à transformer, qui ont transformé la profession médicale. ce travail allait de pair avec la déconstruction de ce que j'avais appelé à l'époque l'éthique de l'autonomie, qui suppose une conception de l'autonomie n'ayant rien à voir avec la notion kantienne, ayant débarrassé l'autonomie de la dimension universalisante qu'il y a chez Kant. L'autonomie ne s'identifie pas non plus à l'indépendance dans cette éthique de l'autonomie, dans la mesure où elle devient elle-même une norme, une obligation, et qu'elle s'accompagne de l'intériorisation d'une vision du monde, de critères élitistes de la performance. Et à cette éthique de l'autonomie, qui a vidé l'autonomie de la dimension universalisante qu'elle avait chez Kant, hein, où l'autonomie, c'est la soumission à la loi de ma volonté, à la loi de ma raison, idem chez Rousseau, et cette autonomie qui devient elle-même une norme, l'obligation d'être soi ou de n'être que soi, pour parler comme Ehrenberg, à cette éthique de l'autonomie qui travaille en profondeur certaines revendications et où justement les biotechnologies sont l'allié de cela, j'avais opposé ce que j'ai appelé l'éthique de la vulnérabilité. Alors cette éthique de la vulnérabilité, elle a été inspirée au départ parce que j'ai appris au contact des patients déments, de leurs soignants et aidants, et je me suis rendu compte que les outils que nous avions pour penser l'identité, l'autonomie, la dignité de ces personnes étaient insuffisants et que d'une certaine manière, la pratique, bien souvent, ou les pratiques étaient en avance par rapport à la théorie. Et donc, il y avait un travail de traduction en langage rationnel de ce qu'il y avait dans les pratiques et puis d'élaboration conceptuelle de ce que je voyais. Et j'ai trouvé aussi dans la phénoménologie de la passivité développée par Lévinas, dans Autrement qu'être en particulier, des éléments pour penser l'humanité de l'humain au-delà de critères par lesquels on définit souvent l'homme comme animal rationnel ou par lesquels on définit souvent le propre de l'homme, la raison, la mémoire, les capacités cognitives. Donc ces critères utilisés par l'éthique de l'autonomie ou même par la métaphysique excluent. De même, la manière dont Lévinas articule deux expériences de l'altérité, la première liée à l'altération de mon corps, au fait que je suis passif quand je vieillis, c'est pas moi qui constitue le temps, mais il y a une temporalisation, ça se passe en moi. Et de même, toute l'expérience de la passivité, de l'altération du corps, cette vulnérabilité en ce sens-là, puisque ce n'est pas le seul sens du mot vulnérabilité, mais est tout à fait solidaire du deuxième sens de la vulnérabilité qui est lié à l'ouverture à l'autre, au fait de se sentir concerné par ce qui arrive à l'autre. Et effectivement, le domaine médical offre un exemple, une illustration de cette solidarité entre la vulnérabilité de l'autre et le fait que je me sente concerné par son sort. Mais l'éthique de la vulnérabilité n'est pas une éthique réservée aux personnes vulnérables, d'abord parce qu'elle ne se limite pas au duo de la rencontre, mais elle désigne une triple expérience de l'altérité, où l'altérité du corps propre fondant ma responsabilité pour l'autre, mais rendant aussi impossible toute indifférence à l'égard des institutions de la société dans laquelle je ne suis non pas un moi, mais moi, hein, donc ce qui suggère une conception du sujet pratique qui renvoie d'ailleurs plus à Ricoeur qu'à Lévinas. Et deuxièmement, l'éthique de la vulnérabilité n'est pas seulement une éthique pour personnes vulnérables et elle n'est surtout pas la généralisation opérée à partir d'une réflexion sur des cas limites, mais parce que la situation de soi n'est pas le paradigme du politique, ni de la relation sociale, et d'ailleurs la relation sociale n'est pas la relation à l'autre, et même l'autre ne s'épuise pas entièrement dans le care ou dans le soin, hein, le jeu, la créativité en sorte. Et en particulier, moi, si vous voulez, je n'ai pas opposé la vulnérabilité à l'autonomie, contrairement un petit peu à ce que font les éthiciennes du care, parce qu'une des notions phares de ce que j'essayais d'élaborer, c'est l'autonomie, et l'autonomie politique en particulier, et l'idée... Enfin, c'était que la vulnérabilité, ce n'est pas seulement la fragilité. La vulnérabilité, ce n'est pas seulement le besoin de l'autre qui, en outre, sera pensé selon sa transcendance intacte, c'est-à-dire dans la positivité de sa différence, ce qui implique d'ailleurs une démarche thérapeutique axée sur l'autonomie des personnes en situation de dépendance, hein, sur leur participation au monde. Donc tout ce qui exige donc une reconfiguration de la notion d'autonomie qu'on trouve dans l'approche des capacités, pour ceux qui connaissent, puisque justement l'approche des capacités permet de voir en amont ce qui empêche une personne, par exemple handicapée, d'accéder à des droits, comme des droits qui sont sur le papier égaux, mais qui concrètement, quand on est en situation de handicap, de précarité ou autre, eh bien, deviennent, les personnes en sont privées. Et cette privation ne désigne pas un malheur personnel, mais une injustice. Donc la question des capacités, c'est regarder en amont ce qui permet à ces personnes-là d'accéder à ces biens premiers, distribués dans les théories de la justice classique redistributive de manière homogène, mais que donc les éthiciennes, l'approche des capacités pointe donc une démarche un peu plus sensible à ce qui est en amont et qui permet donc d'égaliser les droits d'accès. Donc ce qu'on appelle les capacités, mais pas les fonctionnements, puisqu'une personne handicapée, on ne va pas le priver du droit d'accès à l'art, mais on ne va pas lui demander d'être un danseur étoile. Donc voilà. Mais là, donc là, il y a un travail sur donc l'autonomie, vous voyez, qui doit être reconfigurée. C'est vraiment une notion absolument géniale. Et toutes ces situations invitent à l'affiner, hein, parce que souvent on a une notion un peu homogène et abrupte de l'autonomie. Mais surtout, la vulnérabilité, c'est l'ouverture à l'autre, le fait que je suis responsable de l'autre, que mon identité n'est pas seulement liée à la capacité à faire des choix et en changer, ni même à la crainte pour moi-même. Donc c'était l'idée que, si vous voulez, la crainte pour les autres modifiait le sujet. La responsabilité, et pas l'obligation professionnelle qui découle d'un engagement. La responsabilité installée au cœur du sujet renverse ce sujet, change ce sujet, modifie le sens de la liberté et font que la philosophie n'est pas seulement une philosophie du pour soi ou de la liberté. Hein. Il y a l'idée d'intégrer au cœur même du vouloir vivre le souci pour les autres et on verra tout à l'heure même pour les générations futures, les écosystèmes, etc. Donc la vulnérabilité, en un mot, c'était la force, quoi. En ce sens-là. Et cela veut dire que cette catégorie donc, qui désigne à la fois les deux faces, la vulnérabilité, fragilité et force, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait la vulnérabilité ou l'éthique de la vulnérabilité que j'avais essayé de construire et que j'ai construit en plusieurs étapes et qui bouge aujourd'hui, eh bien, n'est pas identique tout à fait à l'éthique de la sollicitude ou éthique du care, qui, avec laquelle elle a pourtant des relations de cousinage, on dirait, mais parce qu'il y a la même volonté de modifier la conception de l'autonomie et de sortir d'une définition peut-être fantasmatique ou fantasmée du sujet autonome, mais c'est pas seulement l'idée de l'interdépendance. Et en plus, moi, le concept de responsabilité que j'avais emprunté à Lévinas, mais pour le transposer dans un monde non lévinassien, si j'ose dire, eh bien, est une autre manière de nommer le sujet. C'est-à-dire que on n'est pas dans une conception un peu psychologique, mais on est dans l'idée que modifier la subjectivité, penser le rapport à soi de manière différente, inscrire le rapport à l'autre, à l'altérité même en soi, au cœur du sujet, bon ben, ça a des conséquences politiques qui, moi, m'ont sauté aux yeux, si je puis dire. Et c'était l'idée que le droit était interprété autrement. Le droit, et en particulier les droits de l'homme, non pas seulement en faisant attention à ce à quoi j'ai droit, mais en réfléchissant à ce que nos usages des vivants, des choses, nos rapports aux autres disent de nous et interrogent cette question peut-être sans réponse de notre droit à être. Ma place au soleil n'est-elle pas usurpation de la place d'autrui par moi affamée ou opprimée, dit Lévinas dans De Dieu qui vient à l'idée. Alors c'est vrai qu'il y a derrière cette pensée peut-être une réflexion, peut-être sans doute y a-t-il dans ce droit à être qui creuse la bonne conscience, sans doute y a-t-il des traces de la culpabilité, sans doute, et c'est ce que je fais actuellement, faut-il passer de cette pensée de la crainte pour l'autre à une réflexion aussi qui prend en compte la jouissance et qui dépasse ce qu'il y a encore de culpabilité chez Lévinas. Mais en tout cas, l'idée, moi j'ai repris cette question, donc qui change le climat de la philosophie du sujet, je l'ai repris dans Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Et ça n'aboutissait pas seulement, ni essentiellement, à étendre notre responsabilité à d'autres êtres qu'aux hommes, c'est-à-dire à l'étendre aux animaux, aux écosystèmes. Le problème, c'était plutôt de m'interroger non pas sur l'objet de la responsabilité, mais sur nous, sur le sujet de la responsabilité, sur ce que disent de nous et du type de société dans lequel nous vivons, nos usages de la terre et des vivants. Et c'est donc là... c'est là que j'arrive au deuxième point, donc la démarche générale de Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Donc l'accent porte sur sur qui suis-je, hein, le quiz de qui suis-je, sur le sujet qui pourrait répondre aux appels venus non pas seulement de l'autre homme malade, mais également des animaux, et de l'image de nous-mêmes que nous voyons quand nous considérons les traitements que nous leur infligeons. Ces appels viennent aussi de l'image de nous-mêmes que nous renvoient nos usages de la Terre et notre impuissance à résoudre la crise environnementale, puisque chaque pas en avant est souvent suivi de deux en arrière. Alors, il y a des auteurs tout à fait intéressants, héritiers d'Aldo Leopold, qui, dans les années 70, se sont interrogés sur la crise environnementale et sur la raison pour laquelle on avait bien du mal à la résoudre, une crise environnementale qui n'est peut-être pas seulement une crise des ressources, mais peut-être fondamentalement une crise aussi de la subjectivité et de la collectivité, en tout cas du modèle de développement. Mais donc, je les ai un peu suivis tout en montrant leurs limites. Ces auteurs, ce sont les écologistes profonds, ce qu'on appelle les écologistes profonds, qui disent que l'écologie, bien souvent, eh bien, c'est superficiel, le développement durable, on dirait aujourd'hui, c'est superficiel, au sens où ça se limite à des réglementations contraignantes au niveau juridique et économique, mais ça ne change pas les styles de vie. Car la question écologique, évidemment, c'est l'écologie, c'est une éthique du quotidien, pas seulement, mais c'en est quand même une, c'est-à-dire que c'est par les changements dans les styles de vie, le style de consommation, qui encourage les productions, la distribution, etc. C'est ça qu'il faut toucher pour changer quoi que ce soit. Donc, l'écologie superficielle n'atteignait ni ce volet des styles de vie qui suppose une interrogation sur la place, notre place dans la nature et la valeur des écosystèmes. Peut-être aussi, ça suppose la critique de l'obsession de la valeur instrumentale. L'idée que les écosystèmes, les autres animaux, auraient une valeur qui ne serait pas seulement réductible au profit que nous en tirons. Donc il y a un décentrement de l'éthique au cœur, dès le début, dès la naissance de l'éthique environnementale, il y a cette idée que, il faut dépasser la règle d'or. Vous savez, la règle d'or qui fait que je ne fais pas à autrui ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse. On doit dépasser cela et faire de rapport à la nature et aux autres vivants l'objet de l'éthique. Alors que d'habitude, ça ne l'était pas. Mais comment penser ça ? Donc c'était quelque chose d'important, les écologistes profonds, que pourfend sans cesse dans un livre déjà ancien, Luc Ferry, mais ils ne les avaient pas tous lus. Mais c'est vrai que l'intérêt des écologistes profonds, c'est qu'ils voulaient situer le débat écologique au niveau donc ontologique, les fondements, la place de l'homme dans la nature, et au niveau culturel aussi, et qu'ils s'interrogeaient sur la partie politique, sans pour autant proposer des outils peut-être fiables. Et ils ont fait avancer le débat sur un point, c'est qu'ils ont montré que l'écologie dérangeait la philosophie et supposait, sinon une autre éthique, une sortie de l'anthropocentrisme, c'est pas sûr, on en parlera, du moins elle supposait un décentrement de l'éthique, en tout, qui coïncide avec le fait qu'on comprend que la valeur d'un être, d'une entité, n'est pas seulement relative au profit qu'on en tire, qui n'est pas seulement relatif au profit ou à l'utilité qu'en tire ou qu'en a l'homme, que l'homme n'est donc pas la source de toutes les valeurs. Et les deux questions que je me suis posées, donc dans ce livre-là, c'est quelle éthique rend possible la prise en compte de l'écologie dans nos vies ? Deuxième question, quelle transformation de la démocratie, notamment représentative, rend possible l'entrée de l'écologie dans la politique ? Et tout en évitant la tyrannie bienveillante, et en évitant l'expertocratie, en faisant entrer les sciences dans la composition du politique, mais sans fonder la politique sur les sciences. Donc voilà. Et l'écologie politique implique, elle a aussi à affronter des dilemmes majeurs. Et parmi ces dilemmes, il y en a beaucoup. On peut rappeler les tensions qui existent entre le respect des droits individuels, le droit de chacun à choisir son style de vie, et donc de consommer, et la prise en compte de la biodiversité, la prise en compte des normes écologiques, des conséquences sur notre modèle, sur des conséquences de notre modèle de consommation, par exemple alimentation, sur le réchauffement climatique, etc. Donc, le défi majeur, c'est de procurer une réponse démocratique à ces questions, puisque la tentation serait grande d'imposer des changements drastiques dans les styles de vie, d'imposer la suppression de la viande. D'ailleurs, ce ne serait peut-être pas la réduction, mais bon. Alors, si on veut faire un pas en faveur de la démocratie, il faut faire autrement que par la contrainte. Il faut peut-être, et en tout cas, cela invite à reconsidérer justement le consentement, et donc ça implique une philosophie du sujet peut-être différente. Alors mon approche, moi, se démarque de l'éthique environnementale, donc qui est née vraiment dans les années 70, et l'éthique environnementale pense pouvoir déduire les politiques publiques d'une plateforme de normes écologiques où figurent des choses qui ne mettent personne d'accord, comme la réduction de la natalité. Hein. Bon, or moi, je me disais que on ne pouvait pas, d'un point de vue méthodologique, on ne pouvait pas commencer par la crise environnementale. Certes, la crise environnementale, on pouvait commencer d'un point de vue méthodologique ou plutôt pédagogique par la crise environnementale, parce que celle-ci pointe les insuffisances des catégories éthiques et juridiques qui servent encore à penser ce que peut être le juste et le bien commun. Donc, elle dérange la philosophie. Mais l'idée qui sera progressivement confirmée dans ce livre, c'est que c'est en partant de l'homme qu'on protège la nature, que c'est en partant de l'homme et en procurant à l'écologie une philosophie première, peut-être, qui pourrait asseoir des décisions différentes et qui pourrait justement inviter les personnes à changer de mode de consommation. Eh bien, c'est par là, en tout cas, qu'il fallait commencer, et surtout que la crise environnementale n'était pas seulement une crise de ressources, qu'elle était profondément une crise de la subjectivité et une crise liée à l'organisation du travail, donc à des champs qu'elle invitait à articuler ensemble, des champs qui d'habitude sont séparés. Alors, l'idée, c'était de construire un concept de responsabilité qui souligne peut-être la rationalité et surtout la démesure de cette responsabilité, parce que l'objet de la responsabilité n'est pas seulement l'autre que je vois, auquel je peux m'identifier par compassion, ça peut être des gens que je ne connais pas, qui sont trop nombreux et qui vivront dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, on n'a pas de pitié pour quelqu'un qui vivra dans 300 ans, bon, pour les arbres, etc. Donc c'est une responsabilité qui est plus large que notre faculté d'identification, notre pitié, qui est plus large que notre faculté de représentation, puisque les conséquences de nos techniques, pensées au nucléaire, font qu'on ne peut pas représenter ces victimes. Et donc, l'idée, c'était comment nous rendre disponibles à ce que ce concept hyperbolique de la responsabilité exige de nous et qui découle aussi de la prise en considération des transformations de notre pouvoir technologique, comme le disait Hans Jonas. Et alors, donc moi, l'idée, si vous voulez, c'est que ce que je propose, c'est du moins dans cette étape-là, puisque je crois que je l'ai un peu dépassé maintenant, mais c'était l'idée que le sujet de l'éthique de la vulnérabilité ne se définissait pas seulement donc par la conservation et l'édification de soi, par la liberté, mais qu'il s'inquiète du devoir être de son droit, c'est-à-dire inscrire au cœur du sujet, au cœur de la liberté, une responsabilité qui en modifie le sens de cette liberté, et qui intègre donc dans son vouloir vivre le souci de préserver la Terre et de ne pas imposer aux autres espèces une vie diminuée, ni aux autres générations futures. Et donc ça, mais si la responsabilité dépasse la compassion, si elle n'est possible, elle n'est pas possible, cette responsabilité, chez un être qu'un système de représentation erroné ont clivé ou insensibilisé. Ce qui fait que la réflexion, en tout cas dans le livre que j'avais fait en 2011, eh bien, la réflexion sur la violence, pas la cruauté, la violence dans nos rapports aux bêtes s'inscrivait dans une interrogation plus large qui montrait justement la nécessité de modifier, d'enrichir la philosophie du sujet. Et alors, dans cette interrogation qui vise à construire un concept de responsabilité qui va au-delà de la compassion, la question animale, dont j'avais déjà souligné dans l'autonomie brisée la dimension politique et ontologique, eh bien la question animale joue un rôle majeur. Pour moi, nos rapports aux animaux, les traitements que nous leur infligeons, ne posent pas seulement des problèmes moraux liés à la cruauté qu'on leur inflige, mais posent des problèmes de justice, et ce pour trois raisons. Parce que nos rapports aux animaux, c'est l'épreuve de notre justice. Et quand je dis ça, ça veut dire que je place bien le curseur sur eux, sur nous, mais pas sur eux, et pas sur le statut moral ou juridique qu'on conférerait aux bêtes. Ça, c'est l'éthique animale. La question, c'est que les traitements que nous leur infligeons remettent en question les fondements de notre droit. Comme je disais tout à l'heure, le fait que nous forçons les animaux d'élevage à s'adapter aux contraintes de l'élevage industriel, au mépris de leurs normes éthologiques, montre que nous nous octroyons un droit absolu sur eux que nous n'avons pas. Donc la question animale, en ce sens-là, est l'épreuve de notre justice, et elle l'est pour une deuxième raison, en raison de la confusion entre l'élevage et l'industrie, qui témoigne elle-même d'une organisation du travail fondée sur un déni du réel, fondée sur le déni du sens de l'activité, et fondée aussi sur un chiffre optimal de rendement dont les animaux ne sont pas seulement les victimes, mais qui se retrouvent au sein d'une organisation du travail, dans le management, mais pas seulement dans la sphère privée, mais aussi aujourd'hui de plus en plus dans la sphère publique. Donc il y a l'idée qu'on a là un modèle de développement non seulement aveugle à la limite externe de la production, la biosphère finie, mais aussi insensible à la valeur des êtres humains et non humains impliqués. Et la troisième raison pour laquelle la question animale est l'épreuve de notre justice, c'est que nous sommes, disait Derrida, de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir supporter l'image de nous-mêmes que nous renvoient les traitements que nous infligeons aux animaux. Nous sommes dans une guerre de la place de la compassion dans la justice, disait-il. Moi j'ajouterais, mais ces gens-là, c'est-à-dire nous, nous ne sommes pas représentés politiquement. La protection animale est reléguée à la périphérie du politique, confiée à des discours de l'indignation, parfois de l'abolitionnisme, qui certes desservent la cause, notre cause. Donc l'idée, que la question animale ou que les personnes qui considèrent qu'il y a un appel de l'animal, au sens, c'est également Derrida qui dit ça, au sens où justement c'est le quiz du qui suis-je qui est impliqué. C'est ce que nous sommes fondamentalement aussi comme être animalisches wesen, comme être qui avons une animalité. C'est ce que nous faisons à des êtres sensibles et c'est les raisons pour lesquelles nous le faisons. C'est ça qui nous interpelle aussi. La cause animale nous concerne et en plus, conditions animales et justice sociale sont liées, comme on le voit si on considère les cadences infernales auxquelles sont soumis les employés des abattoirs, que toutes ces personnes qui pensent cela ne soient pas représentées, c'est un déficit démocratique majeur. Donc cette démarche qui fait de la question animale le lieu d'une interrogation philosophique sur l'homme, mais aussi sur la démocratie, et qui conduit à se demander ce que serait un État qui prendrait au sérieux cette question, au lieu donc, ça ne veut pas dire donnerait le droit de vote aux cochons, cette démarche se distingue de l'éthique animale qui donc déduisait l'éthique animale qui, depuis Peter Singer, entre autres, s'interroge sur le statut moral des bêtes, voire pour Tom Regan, statut juridique, et qui en fait un critère permettant de condamner certaines pratiques cruelles ou d'encadrer d'autres. Moi, je ne me focalise pas sur le statut moral des bêtes, mais donc sur ce que se dit de nous et en quel sens, justement, la question animale est l'étape indispensable pour la construction d'un humanisme rénové. Et alors, cette démarche, elle se distingue aussi, mais l'intègre, de l'approche phénoménologique qui avait été initiée dans l'autonomie brisée, où on voit bien que les manières dont nous avons tracé les frontières de la morale, en excluant de la communauté morale les animaux, en pensant à propre de l'homme, une essence de l'humanité, par opposition à une essence de l'animalité, mais pensée de manière privative, évidemment, toute cette manière-là de penser, la phénoménologie l'a montré, ne résiste pas à l'analyse, notamment à la notion de comportement. Je pense à Merleau-Ponty, à sa reprise des travaux de Jacob Wenexkul dans La Nature, magnifique cours au Collège de France, mais aussi ça ne résiste pas aux travaux des éthologues, des paléanthropologues, pensons à Pascal Pic, que vous avez peut-être fait venir. Et tout ce qu'on nous dit sur l'entre-expression animale, les coupures, liberté, instinct, nature, culture, ne sont pas aussi figées que cela. Il y a un dépassement du dualisme qui est un acquis théorique majeur, mais nous n'en tirons pas toutes les conséquences dans la pratique. Et ma démarche à moi, justement, c'était que l'idée que de faire sortir la protection animale de sa relégation dans la seule sphère de la morale pour la faire entrer en politique. Alors j'arrive au troisième point sur écologie, éthique et politique. Quel décentrement de l'éthique et quelle transformation de la démocratie sont nécessaires? Donc deux questions. Quelles catégories éthiques sont utiles pour prendre au sérieux l'écologie dans nos vies? Et puis quelles modifications des instances délibératives, voire de la culture politique, sont appelées? Alors, premier point, on peut faire le point sur quelques catégories éthiques majeures qui marquent ce décentrement de l'éthique que la question animale et surtout l'écologie amènent, mais qui n'équivaut peut-être pas forcément à l'affirmation de l'écocentrisme, au fait que il faudrait sortir à à tout prix de l'anthropocentrisme. C'est évidemment une question importante, mais on peut avoir une position plus nuancée. Alors, les catégories, j'en vais en donner la liste de quelques-unes qui me semblent essentielles. Premièrement, la notion de considérabilité morale. Le mot est vilain, mais c'est l'idée du statut moral qu'on accorde à un être vivant non humain, et aux écosystèmes, donc, à des entités qui ne sont pas des organismes, qui ne sont pas irritables. On peut accorder un statut moral à une entité même quand elle n'a pas la sensibilité. Certes, depuis Bentham, mais avant, la sensibilité est un critère, capacité à souffrir, qui suffit à conférer à un être la considérabilité morale, un statut moral, mais ce n'est pas une condition nécessaire. La plante qui fane l'est aussi, a aussi une considérabilité morale. Donc ça veut dire qu'elle a un intérêt à préserver et peut subir un dommage, même si ce dommage ne s'exprime pas par la douleur. Elle me met moins en cause que lorsque je le provoque, ou lorsqu'il s'agit d'un renard qui est électrocuté, d'une manière horrible d'ailleurs, si vous me demandez, je vous dirai, pour que certaines puissent porter des manteaux de fourrure. Mais, et l'idée intéressante, c'est que la notion de considérabilité morale ne suppose pas que les êtres qui comptent, qui sont l'objet de l'éthique, ça ne suppose pas que ces êtres ont la même importance morale. Entre mon chat et ma sœur, bon, voilà. Et pourtant, j'adore mon chat. Mais, donc, ça, c'est très important, et ça veut dire que le fait de considérer que les plantes, les oiseaux, les vaches, les sangliers ne sont pas rien, c'est lié à une théorie complexe de la valeur, plus complexe en tout cas que ce que nous avons l'habitude d'utiliser en réservant le mot valeur à l'objet d'une évaluation humaine et surtout à un système axiologique. Donc cette notion, elle est hétérogène, ce qui veut dire que mon bien n'est pas forcément le bien d'un ours ni d'une montagne, et que chaque vivant est un sujet, au sens où il cherche un épanouissement selon des normes qui lui sont propres. Mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément une personne, puisqu'il n'est pas imputable. Mais c'est intéressant parce que il y a l'idée aussi d'une rénovation du droit. Vous savez que le sanglier, eh bien, c'est une res nullius en droit, une chose qui n'est à personne, ou les renards, et donc ça veut dire que celui qui le tue, eh bien, ça lui appartient et on peut en faire n'importe quoi. Hein. Le statut des animaux d'élevage, c'est une res nullius. Les animaux de rente, appelés de rente, ou les animaux domestiques sont des biens meubles hein, dans le code civil, mais le code pénal va plus loin, la loi du 10 juillet 76 qui manifeste quand même un progrès, puisque chaque animal doit être détenu dans les conditions par son propriétaire, dans des conditions compatibles avec les normes éthologiques de son espèce, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui limite notre droit. Mais enfin, il y a quand même une disharmonie entre le code pénal et le code civil. En tout cas, il y a quelque chose qui... Bon, voilà. Et même les écosystèmes donc, peuvent aussi être des systèmes de valeurs au sens où ils manifestent une organisation et rendent compte d'un processus plus ou moins stable, et souvent instable d'ailleurs, qui ont une historicité, où l'homme a sa part, hein, les écosystèmes, la nature, c'est ça, elle n'est jamais vierge. Hein. Mais si vous voulez, on ne peut pas comprendre cette idée qu'il valorise à la lumière de ce que nous appelons un système axiologique. Mais l'idée, c'était que les autres êtres vivants, même qu'ils ne sont pas des personnes, et les milieux naturels ne sont pas seulement des instruments de notre liberté ni de simples ressources que nous pouvons exploiter n'importe comment. Donc le décentrement du regard auquel l'écologie invite n'implique pas forcément qu'on adopte une éthique écocentrique. Une éthique écocentriste, plutôt, c'est une considération du tout. Alors évidemment, une gestion responsable de la nature implique la considération de ce qui est bon pour les écosystèmes et donc ça implique une approche globale. De même, ça implique qu'on se focalise sur les espèces et pas seulement sur les individus, donc on tuera quelques loups. Mais il n'empêche qu'il est quand même difficile de penser comme une montagne si on entend cette expression comme se mettre à la place d'une montagne, ce que n'a pas voulu dire, à mon avis, Léopold. Mais on peut déjà voir que c'est difficile à comprendre ce qui est bon pour les autres écosystèmes, voire pour les autres vivants et même pour nos compagnons animaux. Donc, enfin, il y a la notion de valeur intrinsèque qui est capitale avec laquelle coïncide l'éthique environnementale. Une valeur intrinsèque, c'est l'idée que la valeur d'un écosystème, d'une chose, n'est pas relative seulement à mon utilité, mais il y a aussi une idée supplémentaire dans cette notion, c'est l'idée que, si vous voulez, ce n'est pas seulement l'homme qui confère la valeur aux choses. Donc il y a l'idée dans la valeur intrinsèque que les choses auraient une valeur en soi, indépendante complètement de l'homme. Alors, cette notion, elle est très difficile d'usage parce qu'elle peut faire à croire qu'il y a donc une valeur en soi que l'homme irait découvrir. Donc là, il faut une référence à Dieu pour penser cela. Et il faut donc se rappeler que même si la valeur n'est pas seulement anthropocentrique, au sens où elle n'est pas relative seulement à l'homme, elle est quand même anthropogénique, c'est-à-dire conférée par l'homme. Mais l'intérêt, donc il y a un usage un peu délicat de cette notion, mais elle est pourtant essentielle parce qu'elle consacre le décentrement de l'éthique qui est nécessaire pour que l'écologie ait du sens. Et surtout, elle nous invite à penser que nous ne connaissons pas tout des choses. Et moi, je pense que la meilleure manière de traduire ce que peut être la valeur intrinsèque, c'est de penser à la contemplation esthétique d'un paysage, puisque la contemplation esthétique est une fin qui a sa valeur en elle-même, et le paysage, son existence me réjouit, pour ainsi dire. Donc il y a l'idée, ça permet de traduire justement cette idée que la valeur des choses, même conférée par l'homme, dépasse son usage. Et loin d'être opposée à Descartes, qui est souvent vu comme le bad boy, mais que moi j'adore et que je sauve tout le temps, eh bien, j'essaie, il faut se rappeler que Descartes lui-même, enfin Descartes comprend pour l'horrible gars qui veut nous rendre comme maître et possesseur de la nature, alors qu'en fait c'était seulement pour faire qu'on vit un peu plus longtemps et surtout qu'on soit débarrassé des fardeaux de la vieillesse, et bien pour Descartes, Dieu seul est cause finale. Et que nous ne connaissons pas les choses, et certaines, dit-il dans les lettres à Élisabeth ou dans la lettre à Chanu, certaines existaient avant nous. Donc l'anthropocentrisme dur et la position despotique de l'homme par rapport à la nature est beaucoup plus récente qu'on ne le dit. Donc l'intérêt de ces notions est qu'elles suggèrent qu'il y a des limites à l'action de l'homme imposées par les entités non humaines. Donc dans l'éthique et la politique classique, la seule limite à mon action qui rend légitime l'intervention de l'État est l'autre homme, alors qu'ici, donc, il faut penser autrement le sujet et il y a l'idée peut-être de penser des choses communes dont il s'agit de gérer la rareté. Là aussi, on peut penser que Locke, qui disait qu'il y avait un droit à l'enrichissement, eh bien, il y avait quand même des bornes à ce droit à l'enrichissement et à même accumuler plus que ce dont j'ai besoin. Et ces bornes, c'était l'humanité, ne pas priver les autres hommes d'accès en quantité, en qualité aux nourritures. Donc toutes ces remarques invitent à compléter la philosophie du sujet et la construction d'un concept de responsabilité qui nous préserve, donc de nous transformer en innocents coupables et d'être complices d'un modèle de développement qui menace aujourd'hui les valeurs de liberté et de justice que les philosophes des Lumières nous ont transmises, et bien est précisément l'ambition de l'éthique de la vulnérabilité qui est une philosophie du sujet. Alors, j'avais donc, pour aller vite là, dit que l'éthique de la vulnérabilité, c'était l'articulation entre trois expériences de l'altérité, donc celle renvoyant à mon corps, celle renvoyant à la responsabilité pour autrui et celle renvoyant à mon intérêt pour les institutions de mon pays, mais dans lequel, évidemment, je ne suis pas comme un poisson dans l'eau. Donc, l'idée d'une identité en tension. Et donc, de même, il y a aujourd'hui, en tout cas chez moi, une insistance sur non pas seulement sur la passivité, mais sur la jouissance, sur une philosophie de la corporéité qui prend vraiment au sérieux le vivre d'eux, les nourritures, ce dont on vit et qui ne nous a servi pas, mais qui conditionne notre existence et que j'appelle non pas les ressources, mais les nourritures, pour signaler justement qu'il s'agit de dépasser le dualisme nature-culture, qui est quand même souvent le défaut à la fois des philosophies de l'existence et des éthiques environnementales. Donc, mais l'idée, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on fait de la responsabilité le cœur d'une philosophie du sujet, eh bien, le cœur de la subjectivité, on renverse cette subjectivité et on inscrit au cœur du rapport à soi le rapport aux autres. Et bien plus, il y a l'idée peut-être que le rapport aux autres, avant le rapport aux autres, avant le visage, il y a le rapport justement aux nourritures, au sens où notre manière de consommer et d'habiter la terre est déjà une manière de se positionner de manière éthique, c'est-à-dire l'éthique étant ici les limites que j'impose à mon droit, à mon bon droit, à ma liberté. Alors j'en viens donc au dernier point, qui est l'écologie et la politique, où c'est l'idée comment compléter la démocratie représentative afin justement d'intégrer l'écologie et d'éviter la secondarisation constante de l'écologie qui est éclipsée par les intérêts présents des hommes actuels, lesquels hommes actuels sont les seuls à être représentés par nos députés et sénateurs. Donc il y a l'idée là de compléter un système représentatif qui est tout à fait intéressant et qui est né dans un contexte écologique et démographique différent du nôtre, mais qui peut-être ne suffit pas à prendre au sérieux l'écologie. Alors, en tout cas, il y a l'idée que le rôle de l'État change dès lors que le bien commun ne dérive pas seulement des intérêts des personnes actuelles et que donc la nature est reconnue comme étant vulnérable. Donc l'idée, c'était quel contrepoids apporter au présentisme. Et évidemment, l'idée aussi, c'était un décontrepoids, mais garantissant une réponse démocratique à la question environnementale. Et donc ça, c'est justement l'enjeu de l'écologie politique telle qu'elle a été rénovée depuis les années 2000, en tout cas. Et l'idée, je vais vous faire quelques propositions et je m'arrêterai, c'est l'idée d'abord, comme première piste, on pourrait dire que la protection de la biosphère finie pourrait figurer parmi les principes constitutionnels. Et de même, si ce que j'ai dit de la question animale est vrai, on pourrait penser que l'amélioration de la condition animale devrait figurer parmi les nouveaux devoirs de l'État. Et donc, elle ne serait pas reléguée à la périphérie du politique. Et alors, l'idée de compléter cette démocratie représentative, ce serait effectivement, à côté des députés qui nous représentent, eh bien, l'idée d'imaginer des commissions représentant aussi les intérêts des générations futures, des autres espèces, et veillant à ce que les propositions de loi soient compatibles avec les nouveaux devoirs de l'État que j'ai mentionnés. Puisque bien souvent, dans la démocratie représentative actuelle, il y a une secondarisation de l'écologie par rapport au pouvoir d'achat, et surtout des incohérences, des contradictions entre, par exemple, la prime à la casse, il y a avant l'ancien gouvernement, et bien justement l'idée d'une transition énergétique, d'un changement de style de vie, etc. Donc ces commissions ne siégeraient pas forcément dans les instances délibératives au même titre que les députés, mais elles auraient un rôle de veille et de vigilance, donc déterminant après coup quelles propositions de loi sont compatibles avec la défense de l'environnement et soulignant surtout les incohérences. Et de même, ça inviterait un traitement transversal de questions qui sont aujourd'hui traitées de manière atomiste et qui échouent pour cette raison, comme la question du lien intergénérationnel, de l'équité intergénérationnelle, de l'environnement, qui touche donc à la fois le transport, l'éducation, la nourriture, évidemment. De même, deuxième piste, troisième, on pourrait faire en sorte que des institutions comme l'Académie des sciences comptent des personnes ayant des compétences dans différents domaines, dans les différents domaines qu'implique l'écologie. C'était une proposition du Grenelle qui soulignait que l'Académie des sciences c'était bien, mais pas tellement sur les questions écologiques. Et l'idée, ce serait que certains scientifiques soient chargés non pas de remettre des rapports qui finissent dans des tiroirs, mais de traduire en un langage accessible les données des sciences afin que les scientifiques, les politiques soient formés. Donc, évidemment, dans cette question centrale, qui est de savoir comment délibérer dans un monde complexe, comment délibérer dans un monde où les données des sciences sur le climat, par exemple, devraient entrer dans la composition du politique, qui n'est pas a priori, mais a posteriori, eh bien, la place de la science, ou des sciences, pardon, dans la société est fondamentale, le problème étant d'éviter l'expertocratie, d'éviter aussi l'instrumentalisation de la parole des experts par les politiques, et donc de faire de la place aux controverses scientifiques qui sont là, non pas pour donner des réponses définitives et homogènes à un problème complexe, mais pour argumenter différemment. Donc là, il y a tout un tas de, il y a des travaux tout à fait intéressants là-dessus. Et au niveau des institutions, dernière chose, ou avant-dernière, le dernier point, c'est la place de la participation des citoyens au débat politique. Alors bien sûr, depuis les années 80, au nord de l'Europe, il y a des dispositifs qu'on imite un peu, des conférences de citoyens, de consensus, qui montrent que les citoyens formés par des panels, par des procédures assez strictes, à des débats contradictoires, ne cherchent pas leur intérêt corporatiste, mais visent justement des normes universalisables. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond qui est ajouté à la participation telle qu'elle est pensée, même dans ces procédures, c'est surtout l'idée d'un changement de culture politique. J'avais parlé au départ de la bioéthique, là on parle de l'écologie. Il est clair que les débats, ces questions, ne sont pas, leurs enjeux ne sont pas perceptibles à partir des oppositions binaires, droite-gauche, progressisme, conservatisme, ce qui ne veut pas dire que ces oppositions-là soient complètement obsolètes dans d'autres domaines. Mais, et de même, ces questions-là écologiques, les oppositions, les conflits écologiques ou sur les nourritures ou la gestion des ressources sont des conflits de valeurs et pas seulement des conflits d'intérêts. Ce qui veut dire que on ne peut pas se satisfaire du consensus par recoupement dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qu'on doit chercher un consensus par confrontation qui suppose l'explicitation des positions ontologiques qui sous-tendent chacune des positions écologiques. Et donc cela veut dire un effort au niveau de l'argumentation, un effort au niveau de l'explicitation de ces positions. Et sans doute aussi, le point de départ de cette explicitation est-elle aussi l'émotion et la valeur esthétique qui joue un rôle très important, on le voit dans les conflits écologiques. Il y en a à Nantes, hein, je ne vais pas en parler, mais bon, c'est tout à fait important. Il y a la traduction de ce que c'est que la Terre, ce que c'est pour un groupe, etc. Donc vous voyez, et je crois que c'est là, ça invite à un enrichissement des débats politiques qui vont évidemment supposer que les passions politiques et la manière dont les politiques s'adressent aux citoyens changent. Enfin, et ça, moi, c'est la question qui m'intéresse le plus, c'est évidemment la description des structures fondamentales de l'existence qui s'ensuivent d'un approfondissement de la philosophie de la corporéité qui était déjà en place dans l'éthique de la vulnérabilité, mais qui, à la lumière de ce que c'est que vivre dans un milieu à la fois naturel et culturel, eh bien, acquiert une dimension différente, plus profonde, parce que justement, il y a l'idée que l'homme n'est pas seulement défini par la temporalité, mais il y a aussi l'espace, l'habitation, le fait de faire espace. Donc tout ça, évidemment, l'écologie, installée au cœur d'une philosophie de l'existence, renouvelle les existentiaux, ou les catégories permettant de décrire les structures fondamentales de l'existence. Voilà. Donc pour finir, je dirais que tout ce que j'ai dit des innovations philosophiques et politiques qui devraient s'en suivre, donc de la prise au sérieux de l'écologie et d'une nouvelle conception du sujet liée à une philosophie première, eh bien conduisent en fait à souligner l'importance de l'autonomie. Donc l'éthique de l'écologie, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'éthique des petites choses, puisque on ne protégera véritablement l'environnement et qu'en comptant sur le consentement individuel, sur les changements dans les styles de vie auxquels les individus consentiront, dans leur choix de consommation, mais surtout l'enjeu est de se réapproprier un pouvoir de décision. Car une des menaces qui pèse sur nous est de subir de plus en plus la bureaucratisation de la vie politique, du travail, et de ne plus pouvoir maîtriser des décisions qui sont prises par des États eux-mêmes à genoux, et qui cède à la pression des lobbies, de certaines entreprises privées constituées en monopole, tout ce que dit André Gorz sur l'écologie n'a pas pris une ride, une production agricole locale, comme on le voit avec les circuits courts, une agriculture biologique indépendante de l'industrie agrochimique, des monopoles, un développement des énergies renouvelables, tout cela entraîne non pas un recul de l'État, mais une redéfinition de l'État. Et l'État, loin d'être un des maillons dans la chaîne d'hétéro-régulation qui nous aliène, et c'est le cas aujourd'hui, doit au contraire soutenir l'autonomie des individus qui doivent s'organiser. Donc non seulement l'audace, l'inventivité sont les mots-clés de cette organisation sociale et politique, mais la source de l'obligation qui pousse dans notre vie quotidienne à faire tel ou tel choix au niveau de la consommation est en nous-mêmes. Et c'est là que la contribution du philosophe, qui invite non pas à une vision du monde, mais à la redescription des structures de l'existence, à une rénovation peut-être du sens de l'existence, peut apporter une contribution utile, parce qu'il ne s'agit pas d'une religion, ni des réglementations juridiques et économiques contraignant les individus, mais il s'agit fondamentalement d'une autre compréhension de soi et du sens de l'exister, et cette compréhension de soi peut fonder un nouveau contrat social. Donc il y a l'idée non seulement des modifications institutionnelles mentionnées plus haut, mais il y a surtout l'idée d'une philosophie du sujet qui ne fait pas de la réciprocité entre les droits et les devoirs et de la compatibilité entre les libertés, les seuls termes du contrat. Donc voilà, et je finirai, donc c'est un peu le travail que je suis en train de faire actuellement, qui s'appelle Les nourritures, en deux tomes, hein, puisque je suis bimaniaque, un, donc le volet d'une philosophie première, redécrivant des structures fondamentales de l'existence, mais à la lumière justement de l'inscription au cœur de l'existence de l'oïkos, et deuxième, eh bien, un nouveau contrat social. Voilà, donc ce sera la suite de ce que je ne faisais finalement qu'annoncer dans Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Je vous remercie.
Merci infiniment, vous avez apporté une contribution utile. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Vous avez pris des notes alors.
Bonsoir. Vous avez même presque pas parlé de ce qui concerne l'euthanasie. Vous l'avez, il me semble, très légèrement évoqué. Et je me demandais si le fait que l'euthanasie animale soit couramment pratiquée, contrairement à l'euthanasie humaine qui, en tout cas en France, n'est pas légiférée, merci. Je me demandais si ça témoignait de la vulnérabilité humaine vis-à-vis d'autrui, dans son rapport à autrui, par rapport à la responsabilité de la vie humaine, si justement le fait de replacer les animaux au centre du débat pourrait, en ce sens, faire avancer le débat sur l'euthanasie humaine.
Alors, c'est une bonne question. Donc, j'ai pas fait une conférence sur cette question qui mériterait elle-même une heure, tellement elle est complexe. Mais c'est une très bonne question que vous avez. Mais je vous dirais que l'euthanasie animale, oui, c'est très important. Moi, je connais des vétérinaires qui en font et l'idée, c'est de ne pas le faire pour le maître, mais pour l'animal, en sachant. Les animaux, c'est comme les bébés, hein. Ils ne parlent pas en sachant si c'est le moment. Mais vous savez pourquoi il y a l'euthanasie pour les animaux? Parce qu'il n'y a pas de soins palliatifs. La question du suicide assisté est actuellement en cours. On peut en discuter, on peut même inviter, moi j'ai un peu évolué là-dessus, en penser une dépénalisation possible pour les personnes qui ont eu accès aux soins palliatifs, c'est pas tout le monde, et qui n'en veulent plus, c'est pas tout le monde. La plupart des gens qui ont accès aux soins palliatifs ne demandent pas la mort. Mais donc on peut, et qui ou des douleurs réfractaires, etc., où la sédation ne suffit pas, comme certains cancers du pancréas, etc. Mais c'est même pas 1% hein, des gens. Le gros problème actuellement, c'est que les soins palliatifs sont, d'abord, il n'y en a pas partout, et deux, on le donne trop tard. Surtout les cancéreux métastatiques, une semaine avant le décès. Donc, vous voyez, avant de penser à faire bouger la loi, et peut-être peut-on inviter à penser une dépénalisation pour les personnes qui ont eu accès aux soins palliatifs, qui n'en veulent plus et qui ne veulent pas d'acharnement dans l'accompagnement, peut-être sédation terminale, ce que propose Sicard, ou peut-être même, pour ceux qui n'ont, peut-être même aller plus loin, éventuellement. Mais faut quand même, la question est différente. Les animaux, il n'y a pas de soins palliatifs, mais c'est pas rien hein, d'euthanasier son animal, de le conduire, et pour le vétérinaire. Et le gros problème, évidemment, c'est... Mais de toute façon, même dans les refuges, si vous saviez combien de chats on euthanasie tous les jours, parce que les gens les abandonnent. Et puis, bon. Mais les animaux qu'on amène, qui ont un cancer, qui sont... Y a pas, on donne des médicaments pour soulager, mais il n'y a pas de soins palliatifs. Voilà.
Je voudrais revenir là sur un concept que vous avez développé là concernant une ontologie écologique, ce qui permettrait peut-être d'amener les politiques que nous sommes tous à changer de paradigme. Un des paradigmes aujourd'hui peut-être issu de Condorcet, là, ce texte très lyrique, l'esquisse d'un tableau, etc., dans lequel il fait l'apologie du progrès. Et on a longtemps pensé que le progrès serait capable de compenser, de réguler tous les errements commis en son nom. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Et ce constat-là, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, nous impose peut-être une éthique du renoncement.
C'est très jonassien, ce que vous dites.
Une éthique du renoncement, et je peux la redévelopper, non pas à partir de Jonas, mais d'un concept alors développé par Clément Rosset, principe de cruauté. principe du cru. Ouais. Plus une vérité est cruelle, plus elle est considérée comme fausse. Et aujourd'hui, tout ce qu'on va dire, vous allez penser, nous allons penser, pour que mes enfants ou mes petits-enfants aient un avenir, nous allons penser l'avenir en termes de renoncement, forcément, ça provoque des résistances. Et je pense qu'une partie du discours politique écologique, au sens noble du terme, là, doit être ramené à ces considérations-là. Et là, la philosophie a certainement un rôle à jouer. En essayant d'éclairer cette problématique-là, on est obligé aujourd'hui de penser, repenser nos paradigmes, mais avec ce principe de cruauté imposé par le renoncement.
Oui, alors je dirais deux choses. Oui, ce que vous dites, je suis en partie d'accord. Et c'est vrai que moi, ça me fait penser, pas tant à Clément Rosset, mais je comprends tout à fait que vous alliez vers lui, à Hans Jonas, où il y a l'idée d'une éthique de la limitation, de l'autolimitation, justement, comme seule réponse au pouvoir démesuré de la technologie, la transformation de notre agir technologique qui a des conséquences sur des millions de personnes, des échelles et surtout sur un temps complètement différent qui n'est plus seulement les hommes actuels. Alors, il y a l'idée de la crainte pour les autres, même l'heuristique de la crainte, c'est-à-dire la manière de se procurer des émotions permettant de se rendre disponible à ce que cette responsabilité hyperbolique exige de soi. Mais moi, j'ajouterais un tout petit bémol, c'est que l'idée que vous pointez, et c'est, beaucoup de politiques m'ont fait la remarque. C'est-à-dire que ça tend vers l'idée de la catastrophe, un petit peu, les difficultés, la prise de conscience aiguë des catastrophes vers lesquelles nous allons. Moi, je pense que c'est peut-être intéressant, mais il me semble que plus profondément, ce qui sera moins contre-productif et plus utile, parce que le catastrophisme, ça pousse chacun à sauver sa peau dans l'immédiat. Mais c'est vraiment substituer à la crainte pour les autres, qui pourtant déjà modifie le cœur du sujet, son rapport à soi-même, penser un autre rapport à soi, mais plus positif. Et je crois qu'une philosophie première, qui ne serait pas liée à la prise de conscience de toutes nos cruautés et nos violences, mais et tout ce que nous pouvons faire et qui aboutit, d'ailleurs ce nous, on voit bien que la responsabilité, elle est diluée, justement. Mais c'est bien ce que veut dire l'ère anthropocène aussi. C'est-à-dire que nous sommes un agent géologique, l'empreinte écologique du 7 milliards d'hommes fait que cette responsabilité est diluée. Mais moi, je crois au cœur des gestes quotidiens, au cœur du sujet, lui faire prendre conscience d'un autre rapport aux choses et d'un autre rapport aux autres par son rapport, par exemple, à la nourriture, qui est vraiment, à mon avis, fondamental parce que c'est ce que nous mangeons, que nous nous incorporons, est déjà une manière de cautionner telle production, de nous autoriser à manger des animaux ou pas et jusqu'où. Et c'est vraiment. Et puis, il y a le pouvoir du consommateur qui est énorme et dont les consommateurs peut-être ne prennent pas assez la mesure. Donc, alors que. Et substituer fondamentalement à la crainte pour l'autre, peut-être justement un ne pas pouvoir vouloir que par son action, on impose aux autres espèces, aux autres hommes, une vie diminuée et qu'on détruise la Terre, et que ce ne pas pouvoir vouloir ne soit pas une contradiction logique comme chez Kant, mais un désir. Et moi, je crois, c'est pour ça que je trouve que chez Jonas, même s'il ne le dit pas, parce que l'heuristique de la peur va faire basculer son éthique du côté de la crainte. Mais je crois qu'il y a une philosophie de l'amour, pas seulement parce que la vie dit oui elle-même, mais parce que vraiment, il y a l'idée d'un sujet qui finalement, et c'est quand même remarquable, ce vieil homme qui écrivait ce livre, il était déjà très âgé, et bien qui sait, qui se mesure, quelque chose qui est quasiment impossible à faire, mais cette idée de ne pas s'autoriser certaines choses. Donc je reviens, vous voyez, mais peut-être l'idée, je crois vraiment que peut-être même l'idée, oui, l'écologie, c'est intéressant parce qu'il faut libérer un potentiel culturel qui a une part de subversivité, qui est subversif, mais il y a une question symbolique, il y a tout ça qu'il faut redécrire. Et moi, je crois vraiment, par exemple, quand on lit Ein und Zeit, bon, c'est évidemment génial, on devient gaga, philosophe, quand on lit est très temps, hein, bon, mais il me semble que dans ces philosophies de l'existence, et Ein und Zeit en est peut-être le sommet, et il y a peut-être une part qui a été oubliée, qui est justement ce rapport aux nourritures. Cette idée que la forêt, ce n'est pas seulement l'exploitation forestière, c'est cette idée de l'espace. Cette idée, et ça, je crois que c'est construire l'espace, habiter la terre, c'est déjà une réflexion. Vous voyez, on sort là de la crainte vers autre chose. Je crois que c'est ce mouvement qui serait peut-être plus utile, mais plus audacieux.
tenez un discours très occidental là, avec toutes les, enfin, tous les personnages que vous citez, etc. Est-ce que, par exemple, une confrontation avec l'Inde serait-elle un peu folklorisée pour apporter quelque chose à ce discours néo-philosophique?
Alors, on est toujours de quelque part. Hein. Mais, par exemple, ben, Gandhi était... par exemple, Annars, le grand philosophe norvégien qui est mort il y a quelques années, qui était une des figures de l'éthique environnementale, il était quasiment disciple de Gandhi, hein, par exemple. Et puis, il y a des... Effectivement, il y a de toute façon... Notre rapport à la nature, il est socialement construit. Je veux dire, Philippe Descola l'a bien montré, bon, et à chaque fois. Maintenant... quand même, c'est bien le mode occidental qui est copié dans la consommation de viande, dans les voitures, dans le... Bon, voilà. Et puis, par ailleurs, c'est, si vous voulez, moi, je pense qu'au niveau politique, il ne peut pas y avoir un modèle généralisable partout. Il y a quand même... On est toujours de quelque part. Mais il y a aussi, par rapport à ce que vous dites, moi, je pense qu'on pourrait ajouter quelque chose. Moi, je regrette profondément que les religions, prenons ne serait-ce que les religions du livre, bon, évidemment, le bouddhisme et l'hindouisme, mais les religions du livre, enfin, voilà, les religions qu'on appelle un peu bêtement monothéistes, eh bien, c'est dommage qu'elles ne s'emparent pas de ces questions. Parce que, par exemple, une lecture de la Genèse montre bien que l'homme n'est pas au centre de la création. Dieu fit les hommes selon... Dieu fit les espèces, les animaux selon leur espèce. Hein, les deux récits de la création. Et puis, tout un tas de choses où l'homme est l'intendant. Hein, bon, Saint François d'Assise, le cantique des créatures. Bon, c'est absolument extraordinaire. Donc, je dirais... et les religions auraient... Ou, par exemple, Maïmonide en parle dans le Guide des égarés, il est interdit de tuer un animal devant ses congénères. Bon, quant à... Vous voyez, il y a quand même dans le judaïsme même... quelqu'un qui voudrait vraiment suivre la règle, je ne me rappelle plus de l'expression hébreu, mais il mangerait quasiment plus de viande. Hein. Il ne suffirait même pas du kasher. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas une traduction en langage rationnel de toutes ces sources de la moralité, parce que par rapport au rapport à habiter la terre et au rapport aux autres vivants, il y a quelque chose de fantastique. Alors, ça se fait, ça et là, mais il y a un apport évidemment considérable.
Là, vous faites allusion à langage rationnel qui serait donc la médiation, mais après tout, on n'est pas obligé de passer par ce langage rationnel-là.
Oui, mais quand on délibère politiquement, il faut quand même prendre des décisions. Bien sûr, oui, vous avez raison, vous avez raison. Il y a pas, on n'est pas obligé d'avoir... mais si on veut le mettre en commun, il faut bien, et surtout pour délibérer, moi, ce qui m'intéresse, puisque je suis façonnée comme ça, c'est quand même les conditions d'une délibération. Donc, quelque chose où on a des visions du monde divergentes, il faut quand même trouver... un point commun. Et ce point commun ne peut pas être seulement le plus petit dénominateur commun. Ne peut pas être seulement le consentement. Ne peut pas être une éthique minimale. Donc là, il y a un défi, voilà. Et puis bon, de même, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler de tout, même en une heure, c'est la question des institutions internationales qui pourraient se saisir de ces questions. Il est clair que les institutions onusiennes, qui sont quand même calquées sur la guerre, où il y a un vainqueur et un vaincu, sans doute ne suffisent pas, ne conviennent pas. On l'a bien vu avec le sommet de Copenhague et puis tous les autres. Là, il y aurait aussi, il y a tout ce, tout, finalement, beaucoup de volets de la philosophie politique et de la philosophie tout court sont concernés ou invités à une créativité par ces questions. Alors, chacun fait, on ne peut pas travailler sur tout. Hein, mais,
Oui, merci. Juste une petite question. Alors, je comprends bien tout l'intérêt qu'il y a à passer outre une pensée de la liberté pour privilégier une pensée de la responsabilité. Et je me demande si on peut fonder cette suprématie de la responsabilité sur la liberté, surtout avec l'horizon lévinassien, si finalement on ne l'ancre pas dans une transcendance qui la justifie. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'ultimement je n'ai pas le droit sur l'autre vivant, par exemple sur l'animal, s'il n'y a pas une norme transcendante qui l'autorise ?
Oui, alors moi,
parce que, oui, juste par rapport à la justification qui a été donnée à l'instant dans votre propos, c'était tout à fait intéressant de regretter l'absence de, disons, l'absence de ressaisie de ce débat par le corps des théologiens ou des, ou des religieux. Et je me demande jusqu'où, justement, on peut fonder cette responsabilité, surtout dans sa revendication d'universalisme, si précisément il n'y a pas de normes transcendantes.
Bah, c'est tout. Moi, je pense, comme disait Strauss, la philosophie est athée, même quand on croit en Dieu. C'est-à-dire que vraiment, il ne faut pas... C'est ce qu'on appelle l'athéisme par probité, hein, mais qui reprend à Nietzsche. Mais bon, je pense vraiment qu'il y a l'ambition, peut-être démesurée, de redécrire des structures fondamentales de l'existence sans se référer à Dieu. Donc, dans une pure logique heideggerienne-straussienne. Mais je crois fondamentalement d'avoir la suprématie de la responsabilité sur la liberté. Alors d'ailleurs, je ne parlerai plus comme ça, même si j'ai parlé un peu comme ça. Mais c'est surtout... c'est surtout l'idée que installer la responsabilité au cœur du sujet modifie ce sujet. C'est plus un rapport à soi, ou ça modifie le sens de la liberté. Mais bien sûr que jamais l'horizon de la liberté et de l'autonomie ne sont oubliés, puisqu'au contraire, en philosophie politique, l'autonomie doit être conquise. Et en particulier avec l'écologie, une autonomie à fond, d'ailleurs, à fond. Contre l'hétérorégulation et le panétatisme, pour plagier Gortz. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que penser, installer au cœur du sujet une responsabilité, le souci de l'autre, et le faire même dans des choses... Vous voyez, moi, je pense que, contrairement à ce que dit Lévinas, qui dit le monde des nourritures, et où il y a une jouissance égoïste comme ventre affamé, ventre affamé n'a pas d'oreille, le passage de cela à l'éthique, c'est une rupture. Seul autrui le fait. Ben moi, je crois là, je ne crois pas. Je crois que dans les nourritures, dans le rapport aux nourritures, dans le fait de manger, il y a donc, avant le visage, un rapport à soi et à l'autre que soi par les nourritures. Et même que les autres soient devant moi ou pas, que j'y pense ou pas, c'est déjà une position dans l'existence. Parce que l'éthique est liée aux conditions matérielles. Le matérialisme est sublime aussi en ce sens-là. Et donc, du coup, voilà, ça veut dire que installer la responsabilité en ce sens-là, comme position dans l'existence, comme cela au cœur du sujet, ça modifie aussi le sens de la justice et les théories de la justice, notamment distributives, avec leur focalisation sur les inégalités, c'est super. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant pour penser la justice quand on intègre les questions qui sont les miennes, et le partage des ressources, pas seulement la distribution, mais le partage des nourritures, pardon, et même pas des ressources. Donc je crois que voilà, mais et moi, je pense qu'on peut se passer de Dieu pour ça. De toute façon, il y a assez de monde, puisqu'il y a les générations futures, il y a les autres, la justice environnementale, et puis il y a les animaux, et il y a assez de monde, on peut se passer de Dieu. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est Derrida qui, dans Violence et métaphysique, répondra à Lévinas. Le monde de Lévinas sans Dieu, ce sera un monde cruel, violent, je te rappelle. Parce qu'effectivement, de même chez Locke, ce qui limite le droit à l'enrichissement, c'est assurément l'humanité et le fait que Dieu derrière. Hein. Mais là, justement, avec l'ambition, enfin, c'est démesuré évidemment, mais j'y arriverai sûrement pas, mais enfin bon, l'ambition d'une redescription à la manière, si vous voulez. Post-Heideggerienne, quoi, des structures fondamentales de l'exister qui pensent justement dans les modes d'être, hein, ce Dasein pour lequel en son être il y va de l'essence de l'être, pour il y va de l'être, penser dans les modes d'être, dans les modes d'exister, mais en intégrant l'espace autant que le temps, l'oikos, le vivre d'eux, hein, parce que le Dasein a faim. Hein, et bien, en intégrant tout ça, je pense qu'on fait surgir un sens de l'existence qui n'a pas besoin de Dieu, mais qui permet de penser autrement le rapport aux autres et tout ça. Donc voilà, moi, c'est un peu ça qui m'intéresse. Mais ça n'empêche pas, effectivement, que les gens, les théologiens auraient un travail énorme à faire. Il n'y a pas qu'autrui, quoi. En fait, la grande idée, c'est qu'il n'y a pas qu'autrui. Il n'y a pas que le visage et il n'y a pas que les autres présents. Il y a aussi... Et voilà, mais c'est vrai que, bon, moi, personnellement, penser à Noël alors qu'on va manger, beaucoup de gens vont manger du foie gras, ça me rend dingue. Hein, non, mais c'est vrai. Non, mais accepter ça, je sais pas, le pape devrait dire non, devrait expliquer, devrait... Non, mais ce serait formidable. Vous voyez, on dit... moi, je pense qu'un jour, il faudra faire entrer la question animale en politique. Mais on la fera entrer, mais il faut être malin. Mais oui, il faut être malin. Est-ce qu'il faut... Mais bon, pour l'instant, on en est un peu loin. Hein, mais...
Non, elle est de plus en plus au cœur, on le voit bien, puisque en fait, il y a quand même des colloques, etc.
Faut
il y a
porter,
toutes,
oui,
les
porter,
toutes les disciplines s'y intéressent. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Vous avez les juristes, les philosophes, les historiens, etc.
Oui, mais je ne sais plus quel politique, en allant aux États-Unis, a dit « moi, je vais conserver le foie gras ». Je trouve que c'est bien, c'est le patrimoine, alors que...
Oui, oui, c'est vrai. Hein, oui, on a dit ça.
Il a dit ça. Hein.
C'est terrible.
C'est terrible.
C'était une très belle conférence de fin d'année, en tout cas. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Plaisir.